Réplique, laïcité et tolérance, avec Caroline Fourest et Denis Lacorne. Comme aux États-Unis, Dieu n'est plus au fondement de l'ordre politique. La société a conquis son autonomie par rapport à la religion. Le peuple souverain a dressé un mur de séparation haut et impénétrable entre l'Église et l'État. Et pourtant, une bataille idéologique fait rage entre ces deux pays autour de la question de la laïcité. Depuis la promulgation de la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les écoles de la République, la France est sous le feu des critiques du New York Times et de l'intelligentsia américaine. Le président Obama lui-même s'est joint à cette croisade. Lors de son fameux discours du Caire en 2009, il a cherché à réconcilier les États-Unis avec le monde musulman sur le dos de la France, en déclarant « Il importe que les pays occidentaux évitent d'empêcher les musulmans de pratiquer leur religion comme ils le souhaitent, par exemple en dictant ce qu'une musulmane devrait porter. Nous ne pouvons pas déguiser l'hostilité envers la religion sous couvert de libéralisme. » Et quelques jours après les attentats, ayant visé Charlie Hebdo et l'hypercacher, le président américain affirmait « Notre plus gros avantage, c'est que nos musulmans se sentent américains, qu'il y a cet incroyable processus d'immigration et d'assimilation qui fait partie de notre tradition. » Et il invitait les Français, pour éviter la radicalisation, à suivre l'exemple de cette tradition. Avec Denis Lacorne, qui publie « Les frontières de la tolérance », et Caroline Fourest, qui vient de faire paraître « Le génie de la laïcité », nous nous interrogerons sur la légitimité de ces critiques. Mais avant cela, je voudrais demander à mes deux invités de définir ces deux modèles de laïcité, c'est-à-dire de séparation des ordres, et d'exposer le plus clairement possible ce qui les distingue. Denis Lacorne.
Oui, sur le mur de séparation imprenable, c'est une vieille métaphore qui est utilisée par Roger Williams, un des fondateurs du Rhode Island, qui est baptiste, qui est chassé du Massachusetts parce qu'il ne pense pas comme les puritains. Mais cette métaphore a probablement été empruntée non pas à Roger Williams, qui était inconnu ou peu lu à l'époque de Jefferson, mais à James Burke, qui est un radical Whig anglais et qui avait fait un livre tout à fait étonnant qui s'appelle Crito et qui est un livre, une utopie. Il écrit en 1767, mais il se situe au XXe siècle. Et il imagine une monarchie anglaise qui soit déconfessionnalisée, où il n'y a pas de religion d'État, où il n'y a pas d'emploi réservé aux anglicans. Et c'est là qu'il dresse cette métaphore d'un mur de séparation. La réalité est plus complexe parce que vous citiez le président Obama qui est plutôt, moi je l'appellerais clérical, philo-clérical, disons. Il est beaucoup plus clérical que ses opposants comme Romney et autres, mais il veut donner une place quand même, non pas privilégiée mais importante aux religions, et il agit contre Bush. Il agit contre Bush et lorsqu'il vante le mérite du système américain vis-à-vis des religions qu'il ne faut pas stigmatiser, on a vu ce que ça donnait dans les dernières élections. Trump est le stigmatisateur en chef, si je puis dire, en interdisant, en prétendant qu'il allait bloquer tout musulman, en prétendant qu'on ferait même des analyses de faciès de qui est musulman, qui ne l'est pas aux États-Unis. Donc le système est fragile de l'intérieur même. Les critiques portées par Obama visant la France n'étaient pas complètement fausses. C'est vrai qu'elles se sont prolongées dans le New York Times au moment de l'affaire du Burkini, où on s'est beaucoup moqué des Français avec les Burkini. Mais le système américain, finalement, reste très discriminant, très hostile à certaines religions. Et il y a eu un moment très fort au moment de la Convention démocrate. C'est M. Khan, un Pakistanais d'origine, dont le fils, citoyen américain, il meurt, c'est un soldat, il meurt en Irak. Et il y avait cette scène hallucinante de M. Khan brandissant le texte de la Constitution américaine dans sa main et disant « Voyez, le candidat Trump a oublié la Constitution, l'a-t-il jamais lue? Et cette Constitution interdit les discriminations contre les religions. Et il y a toute une série d'articles, effectivement, dans la Constitution qui fait qu'on ne pourrait pas bloquer la frontière et interdire à des musulmans de venir aux États-Unis.
Oui, mais quand même, Denis Lacorne, vous avez parlé du Burkini, j'ai fait référence à la loi sur le voile, il y a eu la polémique à laquelle d'ailleurs vous faites référence au titre d'entreprise, autour de l'interdiction de la burqa dans l'espace public, ouais, donc de la dissimulation, ouais, du visage, mais en fait il s'agissait bien du voile intégral et de la burqa. Et là, on peut dire que les Américains, disons la presse américaine, a réagi en masse contre ces initiatives françaises, ces lois françaises, en invoquant malgré tout un modèle américain, une toute autre conception de la sécularisation, en disant que voilà, c'était un modèle multiculturel et la France ferait bien de s'en inspirer. Donc c'était d'une seule voix en quelque sorte que l'Amérique intellectuelle a parlé pour dénoncer des lois liberticides, ce qui veut bien dire qu'il y a quand même deux histoires, deux manières d'aborder le problème de la laïcité en France et aux États-Unis.
Mais je crois que la personne qui a peut-être le mieux compris l'originalité du système américain, c'est Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson visite les États-Unis en 1870, il prépare un rapport sur l'instruction primaire aux États-Unis au moment de la foire internationale de Philadelphie, et il dit, dans le fond, pour comprendre le système américain, il faut sortir un peu de nos mentalités françaises et de débats entre les deux France. Il dit cette chose qui est très remarquable, à mon avis, il dit ça, dans le fond, aux États-Unis, il y a deux instincts. Alors, on n'utiliserait pas le mot instinct aujourd'hui, mais il dit, dans le fond, ce qui est étonnant aux États-Unis, c'est qu'ils ont réconcilié, ou en tout cas tenté de réconcilier, l'instinct religieux et protestant, d'une part, et d'autre part, l'instinct politique et républicain. Et par cela, il veut dire une forme de laïcité américaine qui est quand même très forte, défendue par les pères fondateurs, dans la constitution américaine qui est une constitution sans Dieu, et beaucoup de symboles comme et pluribus unum et autres, qui sont des symboles empruntés à Virgile et autres, qui ne sont pas, disons, qui sont en dehors de la christianité, on fait référence à la Rome républicaine. Donc il y a effectivement cette curieuse chose de deux instincts religieux et politiques et républicains qui sont mêlés, alors que la séparation peut être beaucoup plus nette en France, surtout.
Caroline Forest.
Pour répondre à votre question au début, Alain, oui, il y a effectivement deux modèles qui ne se comprennent pas, qui ne se comprennent d'ailleurs de moins en moins. Quand on dit modèle, on pense un peu à l'idéal type weberien, c'est-à-dire qu'on fait aussi une figure de style pour essayer d'éclaircir le débat public. À l'origine, sur le papier, en théorie, les États-Unis comme la France connaissent une forme de séparation. Effectivement, le mur de séparation dont sans doute a parlé le fondateur de Rhode Island, mais aussi évidemment Jefferson, et puis qui a été garanti, défendu pendant des années dans un système fédéral comme les États-Unis par la Cour suprême, avant d'être pierre après pierre démoli sous les coups du lobby de la droite religieuse américaine, qui a défait beaucoup ce mur de séparation. Alors qu'en France, au contraire, le mur a été plutôt consolidé. Donc déjà, c'est une part de nos évolutions opposées. Mais pour résumer ce qui nous différencie, je dirais qu'il faut vraiment comprendre la genèse de ces deux séparations dans deux républiques qui ont beaucoup en commun. Beaucoup en commun. On dit souvent, effectivement, que les États-Unis ont été fondés par des puritains, mais les pères fondateurs de la République américaine étaient des lecteurs de Voltaire, étaient des lecteurs de l'Encyclopédie. À l'inverse, les révolutionnaires français regardaient beaucoup vers la Révolution américaine. Donc, il y a eu énormément d'échanges entre ces deux républiques. Mais la suite de leurs histoires révolutionnaires, elles, ont été très différentes. Aux États-Unis, on a bâti une république pour finalement permettre l'indépendance d'une nation qui avait quand même été fondée par des gens persécutés pour leurs croyances, ou en tout cas qui voulaient vivre de façon pure, loin de l'église anglicane, de la maison mère, leurs croyances. En France, on a dû sauver la république de l'église catholique. Et ça donne des histoires complètement différentes et des interprétations et des rapports de force au regard de la séparation complètement différents. Parce qu'aux États-Unis, finalement, la laïcité est vécue comme un moyen de protéger la liberté religieuse et l'égalité entre les religions. Alors qu'en France, la laïcité est plutôt un moyen de protéger la liberté et l'égalité des religions. Ça change absolument tout. Et c'est pour ça qu'on ne se comprend ni sur l'affaire du voile à l'école, ni sur l'affaire de Charlie Hebdo, ni sur tant d'affaires depuis tant d'années.
Vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, j'ajouterais peut-être qu'il y a une extraordinaire exubérance religieuse aux États-Unis, parce que le pluralisme religieux a toujours été beaucoup plus développé qu'en France. En France, on est un peu un pays monoreligieux, puisque après avoir éliminé les 250 000 huguenots au moment de la révocation de l'édit de Nantes, on est devenu tolérant, mais c'est un peu facile d'être tolérant dans un cadre qui est quasi monoreligieux. Donc il y a ce foisonnement des religions, il y a aussi la montée en puissance de l'évangélisme dans la deuxième moitié du 19e, et l'évangélisme est une religion très très prosélyte, et donc ça change un peu les données. Et en même temps, l'accusation d'être laïque ou laïcard, elle existe aussi aux États-Unis. Obama, que vous citiez tout à l'heure, a été vicieusement attaqué par Romney, par exemple, au moment de l'élection de 2008 et en 2012. Et en 2008, qu'est-ce qu'on lui reprochait d'être, Romney disait, moi je défends, j'ai deux ennemis, l'islam radical et ceux qui veulent faire de la laïcité une religion d'État. Et il visait Obama. Donc il y a ces curieuses attaques.
Ce qui est fou quand on connaît Obama. Parce
oui,
que, effectivement,
oui. C'est... mais Obama quand même fait bien plus référence au père fondateur qu'au puritain ou qu'à la cité sur la colline, qui fait partie des métaphores ou des citations utilisées par Romney, qui est pourtant mormon, qui n'a aucun lien direct ou indirect avec les puritains.
Alors il est vrai que cette accusation portée contre Obama a quelque chose d'étonnant, surtout au regard justement des deux citations que j'ai tirées de votre livre d'ailleurs, Caroline une forêt et que j'ai lu au début. Mais pour comprendre, peut-être faut-il introduire un autre thème. Caroline Foulès, vous avez parlé des coups de boutoir de la droite religieuse contre le mur de séparation haut et impénétrable, selon la formule de Jefferson en l'occurrence. Mais il faut parler également d'une certaine gauche américaine et de la diversité. Le Monde a publié tout récemment un article de Marc Lilla, « La gauche américaine prise au piège de la diversité », article très intéressant où il essaye de tirer les leçons de l'élection américaine, où il dit « La gauche a oublié de parler à la nation en tant que nation de citoyens qui sont dans le même bateau ». Hillary Clinton appelait explicitement au vote des Noirs, des Latinos, des femmes, des LGBT, etc. Il le regrette énormément. Il dit que l'obsession de la diversité a produit une génération de narcissiques ignorant le sort des personnes n'appartenant pas au groupe auquel ils s'identifient. Et dans un autre texte, il rapporte l'anecdote suivante, tout à fait stupéfiante. « Ma nièce, dit-il, vient de postuler à l'université. Voici le formulaire qu'elle a dû remplir. Tout le monde appartient à une communauté différente, déterminée par la géographie, la religion, l'ethnicité, l'idéologie. Choisissez la communauté à laquelle vous appartenez et décrivez votre place au sein de cette communauté. » Et dit-il, beaucoup ne voient le monde qu'au travers le prisme de l'identité. Mais c'est précisément au nom de la diversité et au nom de l'identité collective de chacun que Obama s'est élevé contre des lois liberticides. Il ne défendait pas la religion, il défendait un univers multiculturel où chacun pouvait se prévaloir de son appartenance. Et c'est aussi cela qui différencie pour le moment le modèle américain du modèle français, parce qu'il y a aussi une offensive dans ce sens en France également. Caroline Forest.
Oui, vous avez raison. Les deux se conjuguent en fait très bien. D'abord, il y a effectivement cette tension, et j'avais écrit il y a quelques années dans Le Monde un éditorial qui s'appelait « La diversité contre l'égalité ». Et vraiment cette logique du droit à la différence, de la reconnaissance, non pas simplement communautaire, parce que le communautaire peut mener à l'égalité, mais le communautarisme, lui, par contre, bute contre l'égalité et se met en tension avec l'égalité. Et donc il y a d'un côté cette facilité qu'ont eu les démocrates à remplacer un vrai discours de transformation sociale, de lutte contre les inégalités. Et d'ailleurs, leur discours sur la diversité a accompagné, ça plusieurs livres le montrent très bien, l'explosion des inégalités sociales aux États-Unis. Et c'est pour trouver un discours de substitution un petit peu facile qu'on s'est rabattu sur ce « je respecte la diversité » qui n'engage à rien en termes de politique publique et qui facilite peut-être un peu le clientélisme. Mais les attaques les plus féroces par le soft power américain, il faut définir en quoi elles consistent et comment elles se sont manifestées chez nous. Parce qu'à la rigueur que les États-Unis aient une autre vision de la laïcité et même du relationnel entre l'État et le citoyen, c'est leur droit. Mais les États-Unis ont vraiment essayé d'avoir une politique d'influence en France qui a fait beaucoup de dégâts. Et quand je parle dans mon livre des dégâts commis par le soft power, je parle du département d'État américain, de l'ambassade américaine qui, depuis notamment les années 80, mais ça s'est ensuite accéléré sous Obama, mais si on fait la chronologie. Depuis les années 80, là, c'était vraiment sous le coup du lobby de la droite religieuse américaine qui a transformé ce département d'État en espèce d'inquisition à l'envers, plutôt faisant la chasse à tous les pays portant atteinte à la liberté religieuse. Et donc, qui dresse une liste chaque année des pays qui portent atteinte à la liberté religieuse, où la France est située quasiment juste après Cuba. Pas simplement pour la loi sur les signes religieux, ça avait commencé avant. Nous sommes placés dans cette liste parce que, en 95, par exemple, une commission parlementaire, notamment dirigée par Alain Vivien, a commencé à proposer de lutter contre les sectes. Et aux États-Unis, on ne peut pas parler de sectes. On parle de nouveaux mouvements religieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'intellectuels français partisans du modèle anglo-saxon qui refusent de dire le mot secte à propos des témoins de Jéhovah, à propos de la scientologie. Donc c'est de là qu'on est rentré dans le viseur, si vous voulez, du département d'État. Après le 11 septembre, George Bush puis Obama se sont dit il y a des radicaux en Europe, des radicaux islamistes, ils nous détestent. Comment faire qu'ils nous détestent un peu moins? Ben, on va leur expliquer que les États-Unis sont de très très grands protecteurs de la liberté religieuse, du voile, du port du voile, contrairement à la laïcité française, et que donc il ferait mieux, en gros, de détester leur pays que nous. Je caricature, mais à peine. Et comme Obama est effectivement un des hommes politiques qui a le plus aimé théoriser, pratiquer le community organizing, ce qu'on appelle le community organizing, l'organisation communautaire, que d'ailleurs certains candidats français aujourd'hui voudraient peut-être importer. Ça consiste à essayer d'aider, notamment en banlieue, parce qu'il y a eu des fonds, il y a eu des politiques pensées par les États-Unis pour ça, aider des gens des quartiers populaires à s'organiser non pas en tant que citoyens, mais en tant que communauté. Ce qui, honnêtement, dans un contexte américain, peut parfois effectivement pallier les carences de l'État défaillant, de l'État non-providence à l'américaine. Dans nos banlieues, en France, c'est une catastrophe. C'est pousser les gens à se ghettoiser plus qu'ils ne le sont, à se monter les uns contre les autres, et ça finit quasiment toujours par des stages sur les droits des femmes prenant le port du voile. Et donc il y a beaucoup de mouvements victimaires, ceux qui ont beaucoup attaqué la laïcité ces dernières années, qui sont en fait de grands amis de l'ambassade américaine, qu'on a pensé à tort que du côté des islamistes. Ils sont aussi pro-islamistes, mais ils sont aussi proches de l'ambassade américaine. Et là, ça va changer. Évidemment, avec Trump, on va avoir d'autres problèmes, puisque le soft power américain sous Trump va au contraire aider les identitaires, comme les Russes d'ailleurs, l'extrême droite raciste et xénophobe. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que ces mouvements ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts et ont essayé d'expliquer dans à peu près tous les débats télévisés que la France opprimait beaucoup plus ses musulmans que les États-Unis. Je ne suis pas sûr que depuis l'élection de Trump, ce discours passe toujours autant.
Mais oui, sur ce débat, je crois qu'il ne faut pas exagérer leur importance. C'est vrai qu'il y a des lois passées sous la pression du lobby évangélique et aussi de juifs orthodoxes aux États-Unis qui ont imposé au département d'État de faire un rapport sur les méfaits contre les religions dans tous les pays du monde. Ça, c'est vrai. Mais si on regarde bien le fonctionnement des ambassades américaines, ça, c'est relativement mineur comme impact. Ce sont des très jeunes diplomates à qui on force cette corvée d'observer les religions dans différents pays du monde. Mais les vrais diplomates, ceux qui décident des choses importantes, ceux qui sont les ambassadeurs ou ceux qui sont des gens comme Kerry, sont absolument indifférents à ce type de rapport. Il faut le faire parce que le Congrès le demande, mais c'est pas là que sont les vraies décisions. Et en même temps, il y a une énorme hypocrisie américaine aussi en l'occurrence, parce que les pays où il y a des manquements les plus frappants à la liberté religieuse, l'Arabie Saoudite, par exemple, ne sont jamais sanctionnés. Parce que la loi du Congrès prévoit des sanctions économiques contre les pays qui violent la liberté religieuse. Mais comme par chance, les alliés des États-Unis qui sont les plus liberticides ne sont jamais sanctionnés. Donc il y a une grande hypocrisie et en même temps, ça reste, je crois, marginal dans le système des ambassades américaines. Sinon que d'un jeune diplomate très zélé, effectivement, en parlera. Et aux États-Unis, on parle très peu de ça. Personne ne lit, personne n'est au courant même de l'existence de ces rapports. En France, les diplomates sont très émus par ça, sont très choqués par ça.
Oui. Et puis en France, on parle beaucoup quand même, aux États-Unis en tout cas, on parle beaucoup du multiculturalisme,
oui,
dont on estime que c'est le meilleur modèle qu'il soit, que c'est la solution trouvée aux problèmes humains, et on voudrait que la France s'inspire de ce modèle, et peut-être des diplomates zélés vont-ils dans ce sens, quand ils disent, comme l'a souligné Caroline Forest, que finalement, les musulmans sont mieux traités aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, pays multiculturel, ouais. La France, pays rigoriste,
non, c'est bien que ça n'est pas le cas, mais ça n'est pas le cas. Après des incidents de San Bernardino, par exemple, qui est un attentat mineur par rapport à ceux qu'on a connus en France, le nombre d'incidents anti-islamophobes aux États-Unis est considérable. Le nombre de cocktails Molotov jetés contre des mosquées, de femmes à qui on arrache le foulard dans la rue en leur disant « va te pendre avec », ce genre d'incident est étonnamment fréquent aux États-Unis depuis un ou deux ans. Donc les États-Unis ne sont pas... Mais pour revenir au débat quand même clé sur le multiculturalisme, je crois que il y a deux tendances aux États-Unis. Il y a une tendance assimilationniste, qui était celle de Zangwill, le melting pot, et puis une contre-tendance, qui est celle du pluralisme culturel, qui a été défendue par le philosophe Horace Kallen. Et il y a toujours une tension entre ces deux tendances. Faut-il assimiler ou non? Et c'est vrai que dans les écoles que vous évoquiez tout à l'heure, il y a cette théorie du salad bowl, dans le fond. Il faut s'identifier à un légume qui serait dans le saladier et non pas à quelque chose qui serait le melting pot, ou le pluribus unum, donc il y a ou le moretum, qui est le fromage aux herbes qui symbolise le pluribus unum dans la formule de Virgile. Donc c'est vrai qu'il y a cette tension, elle est inévitable, et Marc Lilla a bien dit que le danger, c'était la gauche identitaire trop fixée sur les identités. Mais il ne nie pas, il ne rejette pas la grandeur du multiculturalisme américain. La diversité aux États-Unis, ça reste un thème qui est fort. Ce qu'il, dans le fond, dénonce, c'est ce que j'appellerais le narcissisme des petites différences. C'est ça qui préoccupe Marc Lilla. Et c'est là que la droite démocrate, la gauche démocrate a échoué. En même temps, Hillary Clinton n'a pas complètement ignoré les problèmes d'inégalité. Elle voulait augmenter le salaire minimum, elle voulait défendre... mettre à jour le système de santé, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, mais elle n'a pas mis suffisamment l'accent là-dessus. Elle a oublié un peu les laissés-pour-compte de la globalisation, et c'est vrai qu'elle a été trop prise dans la bulle identitaire qui est celle de la méritocratie cosmopolite qui domine le Parti démocrate.
Oui, il faut préciser de qu'est-ce qui est en crise dans le multiculturalisme. Ça n'est pas le multiculturel. Réalité de nos vies, réalité incontestable, ce n'est ni le cosmopolitisme, ni le mélange. On aimerait d'ailleurs qu'il y ait plus de mélange. C'est ce multiculturalisme en tant que, finalement, clientélisme politique qui finit par tellement flatter ce qui différencie plutôt que ce qui relie, qu'il en vient même à tolérer l'intolérable. Le vieux dilemme philosophique, c'est-à-dire, en gros, il en vient à tolérer au nom du respect de la diversité, l'intégrisme religieux, l'atteinte à l'égalité homme-femme, parfois même des manifestations de racisme ou d'antisémitisme. C'est bien ça qui est le fond de la crise. Dans cette bataille intellectuelle, et qui ne concerne pas que la France et les États-Unis, mais il y a en France des intellectuels, des universitaires nombreux qui veulent plutôt s'inspirer du modèle canadien des accommodements religieux ou du modèle américain, qui souvent font reproche aux intellectuels français défendant plutôt l'universalisme laïque, d'ignorer la violence que ferait la laïcité aux croyants et notamment aux musulmans. Et donc ce leitmotiv, j'y reviens parce que c'est un élément de propagande très important qu'on a encore une fois entendu sur beaucoup de plateaux de télévision, notamment sur le service public, ce mantra qui consiste à dire que les musulmans sont discriminés 4 fois plus en France qu'aux États-Unis est répété, non seulement sur nos plateaux de télévision, mais pour avoir été sur de nombreuses chaînes anglaises et américaines après le 7 janvier, après le 13 novembre, après l'affaire des caricatures avant, au moment de la polémique un peu ubuesque sur le burkini. Je peux vous dire que CNN a fait des plateaux, des numéros spéciaux en direct devant la Tour Eiffel pour dire que se passe-t-il en France, cette vague d'islamophobie, la laïcité est islamophobe. Et quand j'essaie de répondre sur les plateaux, mais vous savez, après le 11 septembre, ou après effectivement, comme vous l'avez dit, Denis Lacorne, Saint-Bernardino, le nombre d'agressions et d'actes anti-musulmans que vous avez connus est bien supérieur au nôtre. Et je pourrais ajouter ce qu'on ne dit jamais, c'est en France, de tous les pays d'Europe, que les musulmans sont les mieux considérés après les attentats de 2015. C'est en France qu'il y a toujours le plus de mariages interreligieux, interculturels, qu'il y a le plus de mélange.
Il y en a un peu moins qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mariages mixtes, mais c'est souvent des Français d'origine algérienne qui vont épouser des Algériens ou des Algériennes
Je suis d'accord avec vous.
Ça modifie un peu le sens des statistiques.
Je suis d'accord avec vous que les chiffres optimistes d'Emmanuel Todd qui datent d'il y a déjà quelques années, peuvent être biaisés par ça. Mais néanmoins, je suis convaincue que nous sommes un pays qui se mélange beaucoup plus qu'en Angleterre, où le communautarisme vraiment est à l'œil nu beaucoup plus visible, même si on en prend le chemin. Ne soyons pas...
Mais le maire de Londres est un musulman, d'origine indienne ou pakistanaise.
Oui, non, mais personne n'a dit que la diversité n'était pas valorisée. Ouais. Au contraire, le différentialisme valorise la diversité. Il ne valorise pas le mélange, ce qui est très très différent. Mais il y a même une note... C'est pour moi ce qui était le début de mon livre, la plus grave. Une note qui est rédigée par deux chercheurs américains dans Foreign Affairs, qui a été jusqu'à expliquer après les attentats, dans un article qui s'appelait La French Connection, que s'il y avait autant de djihadistes tunisiens, français et belges en Syrie, c'était la faute à la francophonie et à la laïcité. C'était ça la source de radicalité. Vous voyez où on en vient,
oui, mais des malentendus. Toutes les opinions existent. Oui,
c'est vrai qu'il y a une grande diversité. Enfin, faire une affaire, c'est pas n'importe quoi.
Non, c'est
pas
mais une c'est vrai qu'il y a quand même
c'est
eu
un l'effet désastreux la mise en
du Burkini. On a vu ça dans le, pas seulement dans les médias, dans les photos de beaucoup de journaux étrangers, de policiers forçant une femme à se déshabiller sur une plage près de Nice, et ça a eu un effet désastreux. Et c'est vrai que ce qui... on a mal géré la chose, et c'est vrai qu'on a quand même l'impression, vu de l'étranger, qu'il y a un espace public qui est soumis à une police des mœurs, à une répression, et l'une entraîne l'autre, c'est-à-dire... Ouais, on bloque les hijabs, puis la burqa, puis la burkini. Donc il y a des effets qui se succèdent et qui donnent une impression déplorable de ce qui se passe en France, qui est exagérée, bien sûr.
Mais en même temps, qui donne une impression déplorable. Mais enfin, on aimerait que les gens réfléchissent un peu plus, c'est-à-dire vous dites oui, le voile à l'école, l'interdiction de la burqa, la question du burkini, mais on peut aussi s'interroger sur la volonté de certains musulmans, je dis bien certains musulmans en France, de bâtir une véritable contre-société, une contre-société qui place effectivement la loi islamique au-dessus des lois de la République, qui établit sur les musulmans eux-mêmes une emprise de plus en plus forte, et on est en droit de s'en inquiéter. France 2, l'autre jour, montrait un reportage à Sevran où les femmes ne pouvaient même plus aller dans les cafés. C'est quand même des phénomènes comme ceux-là qui se produisent aujourd'hui, et le burkini ne vient pas n'importe quand pour n'importe quoi. C'est aussi une manière de mettre au défi la société française, et c'est aussi une façon pour les musulmanes d'affirmer d'abord une certaine forme de subordination à l'homme, même si elles le font volontairement, et aussi de créer, alors là pour le coup, un mur de séparation avec le reste de la société française, et là on est aux antipodes justement du métissage et du mariage mixte, alors que ce sont certains partisans du métissage qui se sont le plus violemment exprimés contre les arrêtés municipaux portant à propos du burkini, et si vous voulez, qui ont été promulgués au nom du respect de l'ordre public. Donc il faut quand même envisager tout cela dans un contexte plus large, et je m'étonne que les Américains ne le voient pas. Caroline Forest.
Oui, et c'est vrai que pour le coup, les photos d'un policier arrêtant une femme en burkini sur la plage, c'était personnellement...
Trois policiers,
ça a été pour moi extrêmement difficile d'expliquer ça, pas simplement aux États-Unis, alors que le reste pouvait s'expliquer. Ça a facilité la confusion entre la laïcité et des arrêtés pris par des maires dans l'émotion de l'après-attentat de Nice. D'ailleurs, des arrêtés qui ont été cassés par notre Conseil d'État, parce que ça ne correspond pas à notre Constitution, parce qu'on n'applique pas la même police et la même politique sur la plage qu'à l'école publique. Nous sommes un pays d'extrême équilibre entre les libertés et les devoirs. Mais par contre, vous avez raison, les procès, ils dataient d'avant. Ils dataient déjà de la loi sur les signes religieux, ils dataient déjà de la loi d'interdiction de la burqa, qui n'est pas une loi laïque, qui est une loi prise au nom de l'ordre public. Et c'est pour ça que les Belges l'ont prise aussi, alors qu'ils n'ont pas du tout la même laïcité que nous. Et d'ailleurs, en Arabie Saoudite aussi, il y a des lieux où on ne peut pas porter le niqab intégral pour des raisons de sécurité. Et de plus en plus de pays musulmans s'inspirent de ces mesures pour des raisons de sécurité. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais aller expliquer ça aux États-Unis, Alain, je vous le dis tout de suite, c'est mission perdue d'avance. C'est extrêmement difficile d'essayer d'expliquer toutes ces nuances.
Mais en même temps, il y a une belle décision, que celle du Conseil d'État sur le burkini. Le danger de face à des menaces réelles ou fantasmées, c'est de porter atteinte à nos propres libertés fondamentales. Et ça, ça devrait peut-être être prioritaire, cette défense. Et quelles sont ces libertés fondamentales ? Liberté d'aller et venir dans l'espace public, c'est liberté fondamentale, liberté personnelle, y compris la liberté de se vêtir comme on veut, aussi répugnant ou choquant cela soit-il. C'est-à-dire, je peux porter des talons aiguilles gigantesques, je peux avoir une crête rouge sur les, je peux avoir des piercings monstrueux, des tatouages monstrueux, ça passe. Pourquoi est-ce que dans cet espace public festif que sont les parcs, les plages, les rues, on peut pas faire ce qu'on veuille? Alors c'est différent, bien sûr, dans l'espace institutionnel, les écoles, les hôpitaux, peut-être les aéroports. Et c'est pour ça que la décision de Merkel, bon, en même temps, je regrette que ce type de décision, elle veut interdire la burqa, c'est toujours avant une élection que ça se passe, ce qui est un peu dommage, ce qui veut dire qu'on instrumentalise le religieux à des fins politiques. Mais Merkel, par exemple, laisse entendre que ça serait pas une interdiction universelle, globale, de la burqa, ce serait une interdiction dans certaines institutions publiques qui peuvent être des agences administratives, un commissariat de police, un aéroport. Donc on va vers une interdiction partielle qui, elle, peut-être se justifie. Alors, mais l'interdiction universelle me semble plus problématique parce que ça porte atteinte à des libertés fondamentales.
Non, nous reviendrons là-dessus, mais Caroline Forest, vous voulez répondre.
Dans Génie de la laïcité, mais j'avais déjà commencé dans La Dernière Utopie, qui était un livre où je me posais beaucoup de questions sur la crise du multiculturalisme et aussi les attaques contre l'universalisme. J'essaie de tracer des sphères d'équilibre et d'application de ce principe de laïcité qui, à mon avis, sont très différentes selon qu'on parle de sphère de liberté ou de sphère civique. Et c'est là où je fais une énorme distinction entre l'école publique, qui est un lieu d'apprentissage de la République, de la citoyenneté et notamment du principe d'égalité homme-femme, et donc il est beaucoup plus légitime au nom, en plus, de l'histoire de l'école laïque dans ce pays, pensée par des hommes comme Ferdinand Buisson, qui a toujours inspiré par Condorcet, que lisaient aussi les pères fondateurs américains, et qui voulait faire reculer les superstitions, les préjugés. Et donc c'est pour faire reculer la haine et non pas la foi, disait Buisson, qu'on cherche à protéger l'école laïque. Mais la plage, c'est vrai que c'est différent. À la plage, on se vêtit un peu comme on veut. Et l'ordre public, la sécurité, c'est encore un autre domaine. Et la sophistication de notre modèle français, pour moi, c'est de ne pas mélanger ces ordres, de ne pas mélanger ces sphères.
On invoque pour la laïcité, dans quel qu'en soit le modèle, la liberté de conscience, qui est la valeur suprême. Mais invoquer la liberté pour justifier l'imposition sociale d'un carcan, ça me pose déjà un problème. Et puis, il y a aussi un autre principe qui est celui de l'égalité des hommes et des femmes, qui est bafoué par un certain type de vêtements. Et puis, il n'y a pas simplement que des principes ou des valeurs. Vous parlez du génie de la laïcité, Caroline Forest, mais il y a aussi, excusez-moi, le génie de la nation. C'est-à-dire, la France est une communauté d'histoire et de destin, une culture, si vous voulez, pour parler la langue américaine. Et elle est fondée sur la visibilité heureuse du féminin. Et on peut être en droit d'exiger que cette tradition, cette coutume, soit respectée par tous ceux qui vivent sur le sol français, qu'ils soient de vieille souche ou qu'ils soient des Français de fraîche date. Et puis alors j'ajoute un problème plus général, c'est-à-dire on laisse faire l'islam rigoriste au nom de la liberté de conscience et de la liberté religieuse, sans lui demander en retour d'accorder à tout musulman le droit de quitter l'islam ou de ne pas suivre ses préceptes et d'accepter que les musulmanes puissent épouser un non-musulman. Dans cette situation de burqa et de burkini, évidemment, on est sûr que l'apostasie reste un crime et que ce type de mariage est absolument impossible. Donc je suis très étonné de cette invocation de la liberté de conscience pour une religion qui, sous certaines de ses formes, n'accorde aucun bon de sortie à ses ressortissants, si j'ose dire, à ses membres.
Est-ce qu'on peut préciser les choses? Moi, par exemple, quand j'ai pris position contre les arrêtés sur le burkini, je l'ai pris cette position en tant qu'effectivement démocrate et laïque. Tout en ajoutant, en tant que féministe, je condamne le burkini. Et je ne considère pas que c'est un vêtement comme un autre, comme certains ont pu le faire. Je pense que c'est une régression absolue et qui n'est pas anodine, qui dit quelque chose de la tyrannie. Mais je ne dirais pas comme vous, Alain, que la possibilité du féminin dans l'espace public est une tradition qu'il faut donc respecter au nom du respect de la tradition, parce que c'est tout sauf une tradition. Dans le passé, justement, c'est une conquête récente que l'on doit... Ah si, si, si.
Non, non. Les femmes, l'égalité est une conquête récente, le vote est une conquête récente, mais que les femmes aient été présentes en France, que la France ait été le pays des femmes, c'est ce que disait déjà Hume au XVIIIe siècle, et c'est ce que remarquaient tous les voyageurs qui venaient en France, qu'il s'agisse des voyageurs orientaux et des voyageurs européens. Donc, il y avait cela. Et il y a eu ensuite les conquêtes féministes. Mais vous avez cette tradition est très ancienne.
Les salons littéraires.
Oui, tout ça a été clos. C'était les alcôves, c'était les coulisses du pouvoir. Ouais. Ça n'était pas l'appropriation de l'espace public. Dans l'espace public, les femmes ont toujours dû marcher très vite pour ne pas être rattrapées par l'assignation, justement, à ne pas être à leur place. Dans la culture chrétienne, chez saint Paul, une femme ne doit pas parler en public et doit se faire discrète. C'est dans la culture chrétienne qu'une femme doit se faire discrète. Donc ça n'est pas une histoire de culture, on va pas refaire toute l'exégèse du monothéisme, mais c'est vraiment un progrès arraché aux traditions. Et c'est au nom de maintenir ces progrès, à mon avis, et de protéger l'égalité qu'il faut bien se battre contre ces signes de tyrannie et de régression. Parce que si on le fait au nom de tradition, ça veut dire que c'est uniquement une question de domination culturelle et ça n'est plus une question de laïcité.
Et là, vous avez parfaitement raison. Une chose essentielle quand on réfléchit sur la tolérance et les origines de la tolérance, c'est la persuasion. Disons, la tolérance, les philosophes commencent à y penser au moment où on a nous-mêmes des guerres de religion très, très cruelles. La guerre de 30 ans, 200 000 morts. La Saint-Barthélemy, 30 000 morts. Donc, il y a un moment où on réfléchit à cette violence qui attire la violence et on dit, il faut peut-être, après la médecine brutale des guerres de religion qui n'aboutit à rien, il faut passer à autre chose et il faut penser à une autre forme, une autre médecine douce qui pourrait s'appeler la tolérance. Et l'arme principale de la tolérance, ça n'est ni l'épée ni le feu, c'est la persuasion. Et donc si on utilise la persuasion pour décourager des femmes de porter la burqa ou la burkini, très bien. Mais c'est peut-être une arme qu'on a sous-estimée. Et en même temps, on a une tradition qui est un peu contradictoire. Prenez le fameux article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public ». Alors on trouve le mot « ordre public », on trouve aussi le mot « manifestation ». On a oublié que la liberté de conscience, c'est aussi la liberté de manifester sa foi dans l'ordre public. Et ça veut dire quoi, manifester ? Ça reste ouvert, c'est clarifié ensuite avec la loi de 1905, mais manifester, c'est liberté de culte, liberté aussi peut-être dans la rue ou dans des lieux publics de montrer sa foi, peut-être distribuer des petites bibles dans la rue. Et en même temps, comment cette phrase a été construite ? Si vous regardez les débats constituants, de la rédaction du fameux article 10, qui a ajouté la phrase « pourvu que leur manifestation ne trouve pas la République », c'est le clergé catholique le plus conservateur, c'est l'évêque Goebbels, l'évêque in partibus infidelium, l'évêque de Lod en Palestine, qui dit « attention, parce qu'à partir du moment de la liberté de conscience, les protestants vont envahir l'espace public protégé des catholiques dans des régions où il n'y a pas encore de protestantisme, donc il faut contrôler tout ça, et on va contrôler ça en disant « ne trouble pas l'ordre public ». À l'époque, c'était l'ordre public catholique. Et puis ensuite, sous la Troisième République, au contraire, la laïcité va faire qu'on va utiliser la même phrase, mais pour dissuader ou bloquer les congrégations ou punir ou interdire les processions catholiques. Mais cet aspect punitif, à l'origine, révélait une espèce de guerre de religion sous-jacente entre catholiques et protestants.
Aujourd'hui, le vrai dilemme, c'est une question aussi d'analyse de qui trouble l'ordre public. C'est-à-dire que vous avez, et là aussi, vous retrouvez beaucoup de sociologues du fait religieux ou de sociologues des discriminations qui sont persuadés aujourd'hui que le danger, ils le disent, vient du fondamentalisme laïque, vient de l'intégrisme républicain et que c'est ça qui est le principal danger dans le monde. À l'inverse, quand on pense que le danger vient au contraire du radicalisme religieux et que c'est lui qui cherche en ce moment à tyranniser, à discriminer, à faire fuir les femmes de l'espace public et que donc il y a une responsabilité des politiques, de l'État, de l'école d'essayer d'y résister, c'est bien là qu'on ne se comprend plus en termes de priorité de politique publique. Moi je pense que le danger aujourd'hui vient très clairement de l'intégrisme religieux, qu'il est de retour. Hier, Gambetta disait le cléricalisme voilait l'ennemi, aujourd'hui l'intégrisme voilà l'ennemi. Et que même ceux qui nous expliquent qu'on ne peut pas trop lutter contre l'intégrisme parce que ça ferait monter le racisme, à mon avis, sont dans l'erreur parce que c'est bien en faisant reculer l'intégrisme qu'on fera reculer le racisme.
Mais alors justement, l'un des arguments des intégristes, ou en tout cas l'une de leurs tentations et des possibilités que leur offre aujourd'hui la société française, c'est de s'abriter derrière la lutte contre les discriminations, la défense de la liberté religieuse, d'où la difficulté effectivement qui est la nôtre de leur répondre. Mais là, il y a un point sur lequel je m'étonne que vous n'insistiez pas vous-même, Denis Lacorne, quand vous parlez des lois françaises sur la burqa ou le voile islamique, c'est l'importance du droit de sortie. Parce que là, vous avez sur ce thème, et j'aimerais que vous le développiez un peu, une réflexion très intéressante à propos du secte américaine, les Amish. Les Amish, on les connaît par un film qui leur a été consacré, on les a un peu découverts. Bon, effectivement, ils refusent la technique moderne, ils vivent comme au 19e siècle, et leurs enfants ne suivent l'école que jusqu'au collège. Ils ne vont pas au lycée. D'où la difficulté pour ceux des Amish qui voudraient sortir de cette communauté de le faire. Et vous vous interrogez sur ce thème. Mais effectivement, est-ce qu'il ne faut pas généraliser les choses et exiger des musulmans qu'ils accordent un droit de sortie à ceux qui voudraient vivre autrement, changer de religion ou quitter de toute façon la religion musulmane?
Oui, là
je fais référence au cas Yoder de la Cour suprême, effectivement, dans un chapitre consacré à ce que j'appelle la tolérance multiculturelle. Et là, c'est très étonnant, la Cour suprême des États-Unis, c'est un cas peut-être exceptionnel, mais très révélateur, qui dit qu'il n'y a pas d'objection. Alors, ce qui est mis en avant, c'est la survie de la communauté religieuse. L'argument, c'est une communauté très fragile, ils sont très peu nombreux, donc le droit de survie du groupe l'emporte sur le droit des individus, ce qui est en soi, peut être questionné, mais c'est l'argument de la Cour suprême.
En même temps, leur nombre a beaucoup augmenté,
Oui, mais à l'époque, on ne le savait pas.
Ils sont 200 000 maintenant,
oui,
c'est ça.
Oui, on ne le disait pas. À l'époque, on pouvait croire qu'ils étaient peu nombreux. Et donc, l'idée pour les Amish, c'est qu'on ne croit pas à la technique, on ne croit qu'à l'agriculture traditionnelle, avec un travail manuel très lourd, avec des chevaux, parce qu'il n'y a pas de voitures qui sont permises. Donc, il faut que les jeunes restent dans la ferme et travaillent comme des cultivateurs. Et s'ils font trop d'études, disent les Amish, ils vont être tentés par l'université et ils vont échapper à notre communauté qui va s'effondrer. Et la Cour suprême, curieusement, donne raison aux parents. Oui, vous avez le droit de... Ils ont assez d'études pour compter et lire, ça suffit, pas besoin de les envoyer à l'université. Ils ont le droit de violer les lois de l'État en question qui oblige d'aller au lycée jusqu'à 18 ans. Mais, alors, vous avez raison. Est-ce que ça n'empêche pas ceux qui veulent sortir, n'ayant pas fait d'études suffisantes, vont se trouver chômeurs en désarroi, et c'est quelque chose d'épouvantable. Donc il faut leur interdire ça, il faut leur donner un droit de sortie, et ça fait partie d'un débat important aujourd'hui, et ça fait partie de ma critique de la décision Yoder. Critique qu'on pourrait formuler aussi vis-à-vis des ordres catholiques. Par exemple, maintenant, lorsque vous devenez moine ou nonne dans un ordre catholique, on insiste souvent pour que le futur moine ou la future sœur fasse des études avancées au cas où il ou elle sortirait. Ce qui lui permettrait de retomber sur ses pieds. Alors que n'engager que des gens qui n'ont pas fait d'études ou peu d'études, c'est implicitement bloquer le droit de sortie. Mais donc je crois que ce droit de sortie, c'est fondamental. Mais
pourquoi n'étendez-vous pas cette critique, justement, à l'islam rigoriste? Parce que la question de l'apostasie est essentielle. Et les frères musulmans ou d'autres organisations officielles des musulmans refusent d'abolir, si vous voulez, le crime d'apostasie. Et certaines manifestations de l'islam rigoriste, la burqa, etc., et on comprend très bien que cela va dans ce sens. Donc on ne peut pas faire comme si il s'agissait de pure et simple manifestation de liberté religieuse, puisque précisément, le bon de sortie n'est pas accordé.
Mais comment le prouver? C'est-à-dire, disons, est-ce que dans votre argument, qui est à mon avis très, très, très intéressant et très juste, mais est-ce que le décideur public est un théologien? Est-ce que c'est au décideur public ou au juge de dire, là, il y a une version de l'islam qui est inacceptable, là, il y en a une autre qui est acceptable? Qui va faire ce travail de distinction, puisque l'islam est quand même très varié, très divers dans ses manifestations? Et donc, c'est là quelque chose de très difficile. Et je crois qu'il faut espérer qu'un juge, plutôt qu'un homme politique, dise, voilà, dans cette version particulière de l'islam qui interdit l'apostasie, etc., là, on pourra prendre des sanctions ou interdire. Mais on ne peut pas, de façon ad hoc ou de façon généralisée, dire le salafisme est monstrueux et donc il faut sanctionner les salafistes. C'est trop facile et trop inexact, peut-être, parce qu'il y a des formes même modéré de salafisme. Voilà la grosse difficulté dans un régime de neutralité et de laïcité. L'homme politique, le décideur ou la femme politique n'est pas un théologien. Et c'est là qu'est la difficulté, je crois.
Dans un État laïque, l'État n'est pas théologien. En revanche, l'État est chargé de protéger la République contre des discours qui pourraient inciter à la haine, au renversement de la République.
La loi Pleven, oui.
Et c'est non seulement la loi Pleven sur les lois antiracistes en général, mais c'est aussi la loi de 1905 qui prévoit dans plusieurs de ses articles, des sanctions très claires pour pouvoir fermer des lieux de culte. À l'époque, ça concernait plutôt les prêtres réfractaires et les églises qui incitaient la haine contre la République, mais ça pourrait très bien s'appliquer. Et d'ailleurs, ça s'applique. Sous Bernard Cazeneuve, on a fermé plusieurs mosquées qui incitaient à la haine contre les apostats, contre les minorités, contre la République. Donc, il suffit là d'un peu de volonté politique pour être appliqué, très précisément, selon ces textes-là. Il y a aussi toute la politique à mener comme dans la droite ligne de ce qui a été fait contre les congrégations religieuses. Souvenez-vous du combat mené par les pères de la laïcité, les nôtres, encore une fois par Ferdinand Buisson et d'autres, contre les congrégations assomptionnistes et jésuites, cléricales, qui tenaient un double discours exactement comme les frères musulmans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils respectaient la République, mais en fait, ils élevaient des générations d'enfants dans la haine de la République. Et ce sont ces congrégations, il faut s'en souvenir, qui ont alimenté les haines autour de l'affaire Dreyfus. Et c'est pour tirer les leçons des haines nées de l'affaire Dreyfus, que le petit père Combes, comme on l'a surnommé et qu'il a payé de sa réputation, mais aussi Ferdinand Buisson et d'autres, ont mené la bataille pour fermer ces congrégations, ce qu'aucun homme politique aujourd'hui, ou si peu, très peu, auront le courage de faire, alors que par exemple, quand on a sous Nicolas Sarkozy distribué comme des pochettes surprises des contrats d'association pour des écoles religieuses tenues par les frères musulmans et l'UOIF, dont on sait, dont on a les éléments, qu'ils pratiquent non seulement un double discours, mais qu'ils élèvent plutôt des élèves dans la haine de la laïcité et des valeurs républicaines, on pourrait au minimum, je ne dis même pas fermer ces écoles, on pourrait au minimum arrêter de les subventionner au titre de la loi Debré.
Mais pour prendre les choses, disons, de façon peut-être plus philosophique, Louis Dumont a fait une distinction célèbre entre les sociétés holistes et les sociétés individualistes. Les sociétés holistes sont celles où la société prise comme un tout a priorité sur l'individu et lui ordonne de faire ce qu'il faut faire. Les sociétés individualistes renversent cette proposition, elles affirment la primauté de l'individu. Et nous vivons aujourd'hui dans des sociétés même hyper individualistes. Mais précisément, on peut dire que l'islam, dans certaines de ses formes, c'est un holisme. N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu paradoxal à vouloir défendre des revendications holistes au nom de valeurs individualistes comme la liberté de conscience et la liberté religieuse? Ne sommes-nous là pas en train de tomber dans un véritable piège philosophique?
Alain Finkielkraut, le combat qu'ont mené les pères de la séparation contre la vision holistique de l'Église catholique au moment de 1905 était autrement plus difficile, autrement plus violent face à une idéologie englobante qui ne faisait pas la séparation des ordres, contrairement à ce qu'on pense, parce que quand le pape Boniface VIII disait je sépare les glaives, il disait je ne donne le glaive dans la main du roi que pour servir l'Église. Et on avait affaire à des siècles et des siècles de visions holistique et même franchement totalitaire au nom du religieux, et on a réussi à s'y opposer par d'un côté une laïcité de combat contre cette vision totalitaire du religieux, vous avez raison, et de l'autre côté une proposition juridique de clémence et d'équilibre, et c'est la jonction des deux qui a permis la victoire. Mais je voudrais revenir à la crise des accommodements religieux, parce que c'est là où, par contre, on bascule dans une société multiculturaliste du côté de la tolérance des intolérants, contrairement au modèle républicain qui a trouvé un équilibre. La crise des accommodements religieux et du multiculturalisme en général, c'est une dérive où on est passé de lois différentialistes pensées pour protéger des survivances culturelles et linguistiques, notamment au Canada, pour protéger le Québec, en gros, qui était quand même une des deux communautés fondatrices de la nation, à protéger des communautés religieuses au même titre, jusqu'à tolérer encore une fois leur dérogation à la loi commune. Et c'est là que tout s'est emballé. Aux États-Unis, le mur des séparations, il ne tient quasiment plus, il tient encore un peu. Mais quand vous avez des organismes religieux qui, comme entreprise, obtiennent le droit au titre des accommodements de pouvoir discriminer leurs salariés parce qu'ils sont homosexuels, de pouvoir pratiquer des discriminations qui sont interdites à tout autre simplement parce qu'ils invoquent leurs croyances religieuses. Ben là, vous êtes devant une rupture très claire du pacte d'égalité, du pacte de citoyenneté. Et donc même les multiculturalistes se mordent un peu la queue, parce que s'ils veulent faire plaisir à toutes les communautés, à un moment donné, quand vous tolérez au nom de la communauté religieuse l'homophobie, vous déplaisez à une autre communauté et ça ne devient plus, tout simplement, une société se défait.
Mais n'exagérons pas quand même l'effondrement du mur de séparation. C'est vrai qu'il est poreux, c'est vrai qu'il y a des pierres qui s'en vont, mais fondamentalement, tant que la majorité de la Cour suprême n'a pas changé, ce qui est l'objectif de Trump. Fondamentalement, les États-Unis, c'est quand même le pays où... Alors, on est bien plus concerné par les monuments, d'ailleurs, que par les vêtements. Mais on interdit de placer des crèches dans des lieux publics si elles sont seules, si elles sont isolées. On interdit de mettre des tables des 10 commandements dans un tribunal ou dans une école. On interdit de mettre une grande croix près d'une autoroute. Donc, on interdit des objets qui signifieraient qu'il y aurait une préférence pour une religion plutôt que la non-religion ou une religion par rapport à une autre. Ces interdits... On interdit les prières dans les stades et dans les écoles. On interdit l'enseignement de intelligence design, c'est-à-dire le refus du darwinisme dans les classes de sciences naturelles. Il y a quand même une laïcité qui est protégée par ces gardiens de la laïcité américaine qui sont les juges de la Cour suprême. Même si la chose est fragile et il y a certaines décisions qu'évoquait Caroline Forrest où effectivement il y a des pans entiers de la laïcité qui est contestée aux États-Unis.
J'ai quand même une dernière question à vous poser. Vous définissez la tolérance... Denis Lacan, dans votre livre, vous dites c'est bien vivre ensemble dans une société diversifiée. Hein. Et on a vu. Alors moi, je vous demande si pour bien vivre ensemble, il faut aussi se souvenir que nous avons un monde commun. Mmh. Alors est-ce que on ne pourrait pas opposer à cette définition bien vivre que vous donnez, bien vivre ensemble dans un monde commun. Caroline Forrest, puis Denis Lacan, très rapidement.
Bien vivre ensemble, ça suppose de combattre l'intolérance et donc de ne pas la tolérer.
Très bien, Denis Lacorne.
Et bien vivre ensemble, ça veut dire privilégier aussi le commun, c'est-à-dire être capable de se dédoubler. Le sujet tolérant, il est citoyen d'une part et croyant de l'autre. Il est capable de se dédoubler en deux choses assez différentes. Et il est capable de privatiser ses croyances et de penser aussi le bien commun. Je crois que c'est très important. Et en fait, l'édit de Nantes le disait très bien. L'édit de Nantes, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Vivre paisiblement, je cite, ensemble comme frères, amis et concitoyens, qui est une bonne formulation, je crois, de ce qu'est la tolérance.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette belle citation. Et je rappelle les titres de vos livres. Caroline Forrest, Génie de la laïcité, publié chez Grasset. Denis Lacorne, Les frontières de la tolérance, chez Gallimard, dans la belle collection L'esprit de la cité. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pour toujours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Comprendre la crise de la gauche. Mes invités seront Marcel Gauchet et Henri Weber. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Xavier Lévesque. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.